never weak to you. Ayo, this is the narcissist, the Euphrates, Nomadic Massive, represent Montreal, the Basra. You're listening to the CKUT 90.3. Turn up your radios and turn off your televisions.
Bonsoir, c'est Geneviève Le Tarte. Vous écoutez EQT, CKUT 90.3 FM à Montréal. Ça, c'est fort.
Hello to you all. Thank you for being with us. Welcome to Viewpoints. Borsch Assign here with you for the next 30 minutes. On today's show, greater autonomy or devolution is granted to Nunavut. What does it mean and how could it be applied to the region of northern BC?
One of the things that this agreement does, in addition to transferring power and authority to the territory, it also provides funding to build capacity so that Nunavut can actually manage resource development. It was something that was done by the federal government before. And it's always been a big issue in the territorial level, is their ability to actually, you know, have the administrative capacity, the financial capacity to undertake these responsibilities.
The Vista Radio Group absorbs 21 interior BC radio stations from BCE.
We intend to keep everybody and actually grow the size of the workforce, because I think most of them are underutilized. People who say no one listens to radio really don't know what they're talking about. In fact, tuning has actually gone up, not down. Radio's not dead. We're doing well.
And the Haldimand Township crier is looking to retire. Anyone up for the job?
Oh, yeah. Oh, yeah.
Well, welcome to Viewpoints, local news nationwide.
On the air with Viewpoints. Follow us on X at Canada LJI. Listen to all our stories on frequencynews.ca.
So February 13th, it was World Radio Day, and a great pretext for us to talk to you about the state of radio this week. We've all heard the news. Bell Canada Enterprises, or BCE, dropped 45 regional stations across Canada this February 2024, provoking the fury of Prime Minister Justin Trudeau and Heritage Minister Pascal Saint-Onge and many others as well. However, some good news came out of that announcement. Several other media companies are stepping up to buy the abandoned Bell stations. Hopefully, the employees of some of those stations will still have a job with the new owners. With headquarters in Courtenay, BC, Vista announced its intent to take over 21 of the BCE stations located in BC's interior. Vista also owns 50 other radio stations in three Canadian provinces and the Northwest Territories. The purchase is pending CRTC approval, which could take about a year to approve. Unlike Bell, Vista's primary focus is radio. While taking us through this significant expansion, Vista President Brian Edwards claims many of these markets are underutilized. Edwards wants to bring his decentralized news model to the stations with the intent of bettering local news coverage. Here's an excerpt from his conversation with journalist Ian Craig in British Columbia.
Brian, this expansion will take on roughly 80 new employees. What kind of logistics are you planning in order to manage this exponential growth?
Well, there's a lot of things. First of all, most of the stations are, well, all of the stations today are computerized and on various platforms. So while we wait for the commission, we'll be formatting stations with new equipment so that we can just move our stuff in and move Bell's stuff out on the day of close. In terms of people, we'll certainly be talking to people over the course of time. It's a long time to wait. This one could be up to a year. So, you know, we've already sent messages out that we intend to keep everybody and actually grow the size of the workforce, because I think these markets, most of them are underutilized. And that's going to be our approach. We have stations in Ontario, Alberta, British Columbia, and Northwest Territory.
How do you think the media landscape in these regions will be altered with this transfer? Will there be an increased focus on local news content, for example?
Oh, absolutely. That's been the key of our success. Our people live in the communities that they work in, obviously, and we're part of the community, for sure. And if you're part of a community, obviously what's going on in that community is very important. So local news for us is number one. In fact, we carry less than 10% national news on our radio stations because everyone has access to national news in many, many forms. So why repeat something that is available somewhere else?
And it seemed like with the larger corporations, especially local news, was something that just didn't have much of a focus. In that theme, I'd like to quote recent comments by Premier David Eby. He said, corporations like Bell have overseen the assembly of local media assets that are treasures to local communities. And he went on, they bought them up like corporate vampires. They sucked the life out of them, laying off journalists. They've overseen the crapification of local news by laying off journalists. And now they say it's no longer economically viable to run these local radio stations. It's no longer economically viable to have investigative news. I'm curious, Vista Radio is certainly much bigger than our own station, like a little nonprofit, but it's also much smaller than something like Bell Media, a large media entity within Canada, one of the big three telecom giants. Where do you see Vista's role within the Canadian media landscape?
Well, I think the simplest answer I can give you is that we are focused on one business stream, and that's small and medium market radio, along with each of those stations has a web presence, obviously. It is the era of digital. But we don't have any other business stream, so our focus is totally, and our livelihood is totally dependent on good local radio. And that's, I think, the difference between how we operate those stations and how a larger corporation might operate them. Let me expand on that, because this is a huge difference between the way we operate and many other companies. We have local management in almost every community, and if we don't have management in a community, it's found in an adjacent community where there's another station of ours. Those people make a lot, like 90% of the decisions of what goes on in the air, what charities we're going to promote, what community events that'll be on the air, places that we go in the community. So all of that's local. And, you know, a lot of corporations kind of over-centralize their management, and we've done the opposite, which is why I think we've been successful. People who say no one listens to radio really don't know what they're talking about. In fact, tuning, since people have gone back to work, has actually gone up, not down. That'll be because of travel time in larger markets. But radio's not dead. We're doing well.
In the province of Quebec, Arsenal Media also took a bite at BCE stations. It announced its intention to grab seven new radio stations from BCE, which would make Arsenal the biggest radio player in Quebec with 25 private regional radio stations.
Follow us on X at CanadaLJI and listen to all our stories on frequencynews.ca.
We now move to the northeast of the country, to Nunavut, which has furthered the process of devolution. This means that the Nunavut territory will now have strengthened autonomy over its services, development of resources, and sovereignty. On January 18, the Nunavut government, Nunavut Tungavik Incorporated, and the Canadian government signed the Nunavut Lands and Resource Devolution Agreement. The concept of devolution, independence, or sovereignty has been gaining momentum as well in British Columbia. Here again is Ian Craig in Prince George, British Columbia, speaking with Dr. Gary Wilson, UNBC's Political Science Department Chair, talking about the significance of this process for the territory since Nunavut's establishment in 1999, and also how devolution could apply to the Northern Territories in British Columbia.
Dr. Gary Wilson, this is significant news for Canada's largest territory. Nunavut already has a number of agreements in place that lead it to be a little more autonomous than other regions of Canada. But ultimately, what does this agreement mean for the territory and for Canada?
Well,
ultimately what it means is that the territory of Nunavut and the government of Nunavut will have control over resource development over most public lands, crown lands in the territory, which is a fairly significant move. It's the sort of last piece of the puzzle in devolution for Nunavut. The other territories, Northwest Territories and Yukon, have already gone through devolution processes over the last couple of decades, and both of those territories gained control over natural resources and resource development some time ago. So Nunavut was the outlier. It hadn't yet taken over that area, that really important area. And this agreement will set the stage for that. So it doesn't mean it will be an immediate takeover. It will likely happen in 2027. But the agreement has been signed, and now we begin kind of the implementation phase of that and the transfer phase. One of the things that this agreement does, in addition to transferring power and authority to the territory, it also provides funding to build capacity so that Nunavut can actually manage resource development. Was something that was done by the federal government before. And it's always been a big issue in the territorial level is their ability to actually, you know, have the administrative capacity, the financial capacity to undertake these responsibilities. So part of the agreement is funding arrangements from the federal government, both annual and one time, that will look to build capacity within the government of Nunavut so they can actually carry out these devolved responsibilities.
It's a really interesting arrangement, and it took many years to get to this point. I mean, Nunavut became a territory in 1999.
Yep.
Now we're looking at 25 years later. This is a milestone moment in that process of developing a devolution and closer to autonomous sovereignty.
It is. I mean, you know, some people might argue that it should have happened a lot sooner, but at the same time, you don't want to devolve too quickly, right? Because, as I said, the capacity to take on these responsibilities was not there. And that sort of sets a place up for failure if you devolve powers and then they're not administered properly because you lack capacity. So I think this is a better approach, right, where you make sure that, you have the things in place that are necessary to develop that capacity.
In the context of sovereignty, autonomy, and devolution, as these concepts interlace and overlap with each other, are we now looking at Nunavut as a more sovereign entity than it was prior?
Yes, you are. I mean, they have greater control over what happens in the territory. And when I say they, I mean the government of Nunavut, but by extension, the people of Nunavut, which elect that government, right? And the vast majority of the people living in Nunavut are Inuit. About 85% of the population is Inuit, the Nunavimiut. And they essentially are now in control over a whole series of different policy areas, and their government is in control of these areas. So it's almost playing into the self-determination of Inuit in the Eastern Arctic in the territory of Nunavut. It's reinforcing that self-determination and that control and that sovereignty. So, I mean, that's really what the territories have been looking for ever since the 1960s, right? They've been looking to have control over the things that happen in their territorial spaces. And this is largely finished now as a result of this agreement.
Perhaps to lay it out a little bit for our audience, why might this be significant for Nunavut itself, say in terms of healthcare or other services that the territory might deliver for its population?
It kind of boils down to local people having control, like local governments or governments that are closer to the people having control over what happens in a territory rather than being told what to do by some distant government.
What are the important distinctions between autonomy and devolution as a concept?
Well, so devolution is where a central government, in our case the federal government, devolves or hands over power to another government, in this case a territorial government, where that territorial government didn't have that authority before. That's a bit different from what the provinces enjoy, because if you look at the responsibilities of the provinces, you know, provinces control things like healthcare and education, resource development, but all that is laid out out in the Constitution of Canada and in various constitutional documents, and it's protected legally by the Constitution. With the territories, they don't have that kind of legal protection. So it is possible at some point in the future that the federal government would take back some of these powers. It's highly unlikely now that they've given them over, but it is always possible. Whereas if you have a sort of constitutionally entrenched powers, the federal government can't do that without getting the agreement of the provinces. So there is a kind of a legal difference there between territories and provinces. But as I said before, if you look at the powers and the authority of provinces and territories now, they are very similar in terms of the types of things that they can do, the kinds of responsibilities that they have as governments.
If we shift our focus over closer to our own regional area of, say, northern British Columbia, the provincial government and even the federal government has been negotiating with various First Nations across the province over territorial claims, traditional territory, and of course asserting rights and sovereignty within these various areas. If we were to look at the concept of devolution in northern BC, what kind of changes could we see between our government and First Nations, or even industry and First Nations?
Well, we can certainly think about devolution in the context of Indigenous self-determination and the move towards signing, you know, treaties or land claims agreements, right? So that's been a trend now that's been happening since the 1970s. A number of different Indigenous groups across Canada have signed these treaties. The Nisga, for example, signed one in the 1990s that gave them a certain degree of control over their land and political system and so on. So we can certainly think about it in terms of that aspect, right? So if the Clickley Nation in northern BC signed a treaty with the federal and provincial governments, that would essentially devolve and hand over powers that had previously been under the control of the federal and provincial governments. The other thing that we can think of is sort of more broadly within northern BC. So northern BC is a vast region. It's a northern region. It has much in common with the territories in terms of geography and climate and demography and all of these kinds of things. And one of the unique features of the way that the Canadian system works is that the provincial norths, places like northern BC, northern Saskatchewan, and so on, don't have anywhere near the same level of autonomy as the territories now do. So we have an imbalance here in the Federation, in my opinion, and it's always been a bit of a grievance, I think, in the North, right? We are essentially under the control of the provincial government here. There is no sort of autonomous territory of northern BC, whereas if you go above the 60th parallel, those territories are now essentially provinces, right? So the people living within the territories live in a place that has quite robust autonomy over a wide variety of different policy areas. That doesn't exist in northern BC. I mean, you could envision maybe in the future, you know, and this might be a little bit difficult to envision, but kind of a separate province of northern BC where we would have our own political system here. We would have control over resource development. We would have control over healthcare and education rather than having to answer to Victoria and the powers in southern BC. It's just a thought, but it's something that's kind of been there ever since I've been in northern BC. It's been a matter of discussion about providing northern communities and northern regions with greater autonomy over what happens in their region. Countries, say, in the circumpolar north, which I'm most familiar with, if you look at countries like Russia, for example, or the Nordic countries in Scandinavia, you see that there are a whole variety of different models for trying to realize greater local self-government or regional self-determination. Some of these are nested, as you said, where there's kind of an autonomous region existing within a larger unit. So in the kind of equivalent in BC might be, say, an autonomous region of northern BC existing within the province of BC. In other places, it's a little bit different. If you look at places like Norway and Sweden, say indigenous peoples there have gone a different route. They've created national parliaments, indigenous parliaments that serve as advisory bodies to the national government on matters of indigenous issues. So it really depends on the country in question, and we could go into a lot of detail about why that is, but I'll leave it at that for there. One interesting example that's a little closer to Canada is Greenland, for example. Greenland is part of Denmark, but it is an autonomous sovereign entity that is within the Danish crown. And it is moving towards statehood. It isn't quite there yet, but it essentially has control over most internal matters relating to Greenland, including things like, you know, resource development. And that, you know, is sort of where we're seeing the territories going. Although it's important to note that in all these cases, the government of Greenland, the government of Northwest Territories, Yukon, Nunavut, all of these are public governments, right? So the governments that are in charge represent all of the residents living in that particular territory, not just the indigenous representatives. But in many cases, the vast majority of the people living in those regions are indigenous, so they become sort of de facto indigenous governments.
Interesting.
So there's lots of models out there that we could look to. I think in general, Canada is ahead of most countries in terms of now recognizing indigenous sovereignty, indigenous self-determination through things like land claims agreements and treaties, through some of the legal cases that have been passed, and also in our constitution. And then now, of course, through devolution, the devolution of power to the territorial governments.
Thank you for going into some detail, and I appreciate your time, Dr. Gary Wilson. This has been great.
You're listening to Viewpoints with Warish Sesang.
Questions or comments? Our email is radio@frequencynews.ca.
Close our show, we turn to Ontario, where the Alnwick Haldimand Township will soon need a new town crier. The man who currently is filling the position is leading the charge to find his replacement. Liam Cragg recently announced his pending retirement later this year after having volunteered for the job since 2016. Though the role is ceremonial, Cragg insists it's not without importance, as the town crier is an ambassador for the town. Here's a very short excerpt from Jeff Scar's 25-minute conversation with town crier Liam Cragg.
Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Currently, a town crier is some pageantry and a ceremony that various towns around the world have named as part of their township or city. But it developed from way back when in England with the bellman. And I'm sure you've heard in the movies, 12 o'clock and all's well. And that's when the bellman would have patrolled around the towns and villages to check for fires in the thatched roofs, because street lighting was done by incandescents. So
great. So you're winding down your role, right? And you hope to...
Yeah, well, at this stage right now, I'm trying to find a replacement for council.
Yep.
And ideally what I'd like to do is have a short list, presented to them to say, here's who I've found that might be suitable, and then have a competition for council and have some fellow criers in from our surrounding areas to help judge the event and make recommendations to council.
Great. Well, let's first go back to how you got. I believe we're in a competition to become a town crier elsewhere, and you didn't get the gig at that time, but tell me a little bit about that.
Well, it all started off back near the turn of the millennium when the Rotary Club of Bracebridge said for our Santa Claus parade float, the theme was communication. And past Premier Frank Miller said, okay, I've got a great idea. Liam, you get dressed up as a crier and you lead the pickup truck that'll have a mock-up of a satellite in the back of it. And there, we've covered it from A to Z. The mayor at that time, Scotty Northmore, was so thrilled. He said, let's see if we can get a crier. So there were two entrants, myself and Bruce Kruger. And Bruce won. And Bruce has been a tremendous attribute to the Guild of Town Criers since that time. And then when I moved down here almost 10 years ago, and I was on the Heritage Committee, and I suggested we should do something similar. Long story short, they came to me and said, we don't want to have a competition. Would you be interested? So here I am today.
Yes. What was it that appealed to you about being a town crier?
There's the pageantry of it.
Yep.
There is definitely lots associated. I mean, you can even go to crier. Our guild is gets requests occasionally from the royal pageant master over in England, Bruno Peake, who will say, okay, we're doing a VJ Day celebration. Can you please get the word out to the various legions? Here's what we want to do, and there will be a cry that you can read that's standardized throughout the world. Separate for England and then the rest of the world. And the reach of the criers is interesting. I mean, there are criers in the States. There are criers on the East Coast, the West Coast, and Ontario Guild is well regarded internationally because town crier for Kingston, Chris Wyman, is a three-time world champion, and We hold up very well at competitions internationally. There has to be a drive to say, I want to be an excellent representative for our community. That's the number one. You know, I love my community. I love where we are. I love what it is. And I want to reflect that when I go out into public. So that's the number one thing. The number two thing is to, yes, have a good voice. But even voice, you can get your voice trained. Don't limit yourself to, I know it all and I can do it all. Go out and experience what other people are doing and how they do things and learn something.
It's been fantastic to have you in today. I really appreciate your time.
Jeff, thank you so much for having me in. I really appreciate the interest you've shown.
Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
Well, Liam is hoping to find an ex-town crier as soon as this year. He'll even provide some training. There's more where that came from. Jeff Gard spent almost an entire half hour with the town crier. Tune in at frequencynews.ca for more. And you can write to us, radio@frequencynews.ca, radio@frequencynews.ca. And that's it for us at Viewpoints. Thanks to our journalists Jeff Gard and Ian Craig, to our national editors Victoria Fenner and Maureen McEwen. Viewpoints is produced by the Community Radio Fund of Canada, located in Ottawa. I'm Boris Chassagne, your host and producer in Montreal. Thanks for being with us, and until next week, ciao.
With Viewpoints.
us on Twitter at CanadaLJI.
Québec cherche du monde pour travailler cet été comme guide dans ses centrales et centres d'interprétation partout au Québec. Du monde qui a envie de faire partie d'une équipe énergique qui contribue à changer le monde. Du monde qui souhaite vivre une expérience inoubliable qui ouvre des portes. Tu aimes t'exprimer en public et tu cherches un emploi bien rémunéré? Joins-toi à l'équipe. Postule d'ici le 3 mars au hydroquebec.com/emploi-guide.
De ton ami qui saignait du nez après qu'il soit rentré dans une porte patio fermée, sans rire de lui?
Évidemment.
Avec ton empathie, tu as de l'avenir en santé et services sociaux. Trouve ta place sur québec.ca/carrière en santé. Un message du gouvernement du Québec.
Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne avec vous pour la prochaine demi-heure. Aujourd'hui, coup de théâtre, le lycée international français des provinces atlantiques laisse tomber la ville de Saint-Jean et s'établit à Halifax.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la seule entente bilatérale que le gouvernement français a, qui n'est pas avec un gouvernement. Et c'est une reconnaissance-là du peuple acadien et du rôle que la Société nationale de l'Acadie joue en Acadie, et j'inclus ici toute la diaspora, autant en France, Saint-Pierre et Miquelon qu'en Louisiane ou dans les États de la Nouvelle-Angleterre, par exemple.
Violence au hockey, les arbitres pris pour cible, même dans les plus petites ligues. Maxime Gauthier nous présente le premier de deux reportages sur le sujet.
On a vu des enfants dire « j'aime autant que mon père ne vienne pas ». Des fois, les enfants ont honte un peu. Et eux-mêmes voient que ça ne fait pas de sens. Il y a un investissement qui est vraiment disproportionné ou une difficulté à gérer leurs propres émotions. Si la même chose se produisait dans un lieu public ou au milieu de travail, ce ne serait pas accepté.
La Journée mondiale de la radio de l'UNESCO est célébrée dans le monde entier à chaque 13 février. Elle prend une couleur locale en Alberta. On en parle avec une ex de Radio-Canada.
Le diffuseur public a vraiment un rôle important dans la société canadienne. Pour moi, c'est impensable de voir un gouvernement qui va se débarrasser de son diffuseur public, parce que ça, c'est vraiment très dangereux.
Bienvenue à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Suivez-nous sur X @CanadaLJI.
Eh bien, merci beaucoup d'être avec nous. Coup de théâtre en Nouvelle-Écosse, Halifax accueille le nouveau lycée international français des provinces atlantiques. Le lycée international français des provinces atlantiques ouvrira donc finalement ses portes à Halifax en Nouvelle-Écosse au lieu de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, et ce, dès la rentrée de septembre 2024. Si à Saint-Jean, on a la mine basse, eh bien, à Halifax, on est tout sourire. Le président de la Société nationale de l'Acadie, Martin Théberge, s'en réjouit, et Mike Savage, maire d'Halifax aussi. Le maire considère l'arrivée de cet établissement comme un pas de plus pour renforcer le multilinguisme de la région, de même que son caractère international. La venue de ce nouveau lycée français permettra de répondre à une demande manifeste et notamment provenant de la communauté libanaise d'Halifax. Julia Chenu à Halifax en Nouvelle-Écosse.
Bonjour Martin Théberge et merci encore une fois d'être avec nous.
Toujours un grand plaisir, merci de m'accueillir.
Alors, le lycée international français des provinces atlantiques qui va ouvrir ses portes l'année prochaine à Halifax. Parce qu'on se souvient de l'annonce qui avait été faite il y a une dizaine de jours, le projet à Saint-Jean avait été finalement abandonné. C'est quoi votre sentiment là, après avoir fait partie de cette annonce?
En fait, c'est un grand jour pour Halifax, je crois. C'est un grand jour aussi pour l'Acadie. Si on se rappelle, en fait, si vous permettez que je fasse un peu d'historique, en novembre 2021, la Société nationale de l'Acadie, avec plusieurs de ses partenaires et certains de ses membres, avait accompagné Mme Antonine Maillet au Palais de l'Élysée à Paris, alors que le président Macron lui remettait le rang de commandeur de la Légion d'honneur. Et à ce moment-là, la SNA avait pu s'entretenir avec le président Macron. Lors de son discours, M. Macron avait fait en fait 4 promesses. L'une de ces promesses-là était le maintien, la sauvegarde et même la croissance potentielle du consulat de France dans les provinces atlantiques. Et l'autre, une des autres promesses que le président Macron avait fait, c'était l'ouverture d'un lycée international français en territoire du Canada atlantique, c'est-à-dire en Acadie. Nous, à la Société nationale de l'Acadie, on a renouvelé l'entente bilatérale que l'on a avec la France. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la seule entente bilatérale que le gouvernement français a, qui n'est pas avec un gouvernement. Et c'est une reconnaissance-là du peuple acadien et du rôle que la Société nationale de l'Acadie joue en Acadie, et j'inclus ici toute la diaspora, autant en France, Saint-Pierre-et-Miquelon, qu'en Louisiane ou dans les États de la Nouvelle-Angleterre, par exemple. En mai 2022, il y avait eu une première délégation française en territoire du Canada atlantique pour connaître les enjeux du terrain, pour visiter certaines villes et entamer le processus d'installation d'un lycée international français. Donc, pour nous, Saint-Jean, c'était une excellente ville, comme Halifax l'est aujourd'hui. Mais pour nous, ce qui est important, c'est qu'il y ait un lycée international français sur le territoire du Canada atlantique. C'est bon pour l'économie, c'est bon pour l'immigration, c'est un élargissement de l'espace francophone, c'est-à-dire qu'on a plus de gens qui apprennent le français, plus de gens qui parlent le français, plus de partenaires potentiels au niveau francophone dans nos communautés. Mais c'est aussi une réaffirmation, c'est aussi une autre... arc à notre flèche pour nos collaborations France-Acadie. Donc, c'est un grand jour pour Halifax.
Vous venez de le mentionner, c'est un grand jour aussi pour la collaboration entre la France et l'Acadie. Ça va permettre de resserrer aussi vraiment les liens entre la France et cette partie du territoire du Canada.
Les mots du président Macron, c'était que c'était inacceptable, je paraphrase, mais que c'était inacceptable qu'il n'y ait pas de lycée international français en Acadie. Effectivement, pour ces liens-là qui existent entre la France et l'Acadie, mais aussi pour tout le travail qui est fait par le consulat sur notre territoire, les relations économiques, oui, mais bien d'autres, des relations culturelles, des relations linguistiques et des relations... Il y a plusieurs partenariats de par nos deux universités francophones en Acadie. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait déjà. C'est très important de le réaliser parce que ceci, en fait, c'est un truc très, très concret. Hein? Un lycée, ça amène des Français qui vont retourner chez eux ensuite, qui vont devenir ambassadeurs de l'Acadie. Ça ouvre la porte à ce que des Acadiens aillent étudier ailleurs dans le réseau, réseau de la AFE, réseau Don Bosco. Donc, ces Acadiens-là, francophones du Canada atlantique, deviennent aussi des ambassadeurs. On fera connaître Halifax, on fera connaître l'Acadie, on fera connaître la Nouvelle-Écosse de par le monde grâce à ces actions-là. C'est donc très important de le mentionner, c'est très important de réaliser l'ampleur de l'impact que ce lycée-là peut avoir pour nous.
Est-ce que c'est une... Ça aussi, c'est une certaine satisfaction pour vous de voir que ça s'implante dans une province à majorité anglophone.
C'est un élargissement de l'espace francophone. Il y a plus de gens qui vont apprendre le français. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette école-là n'est pas, puisqu'elle est une école privée, n'est pas sujette à la règle des ayants droit. Donc, les anglophones qui ne proviennent pas d'un milieu francophone ou d'une famille francophone pourront étudier le français. Ça ouvre la porte à une espèce d'immersion supplémentaire pour les gens d'Halifax. Donc, plus de gens sur notre propre territoire qui parlent le français. C'est aussi au niveau économique. Plusieurs investisseurs vont utiliser le fait qu'il y a un lycée international avant de choisir le lieu de leurs investissements, de leurs agrandissements, des nouvelles infrastructures qu'ils vont construire, plusieurs immigrants, s'ils sont de pays où le français est une langue, ben ils vont utiliser ça comme un critère, c'est-à-dire qu'en choisissant, par exemple, entre Winnipeg et Halifax, ben Halifax aura peut-être la cote parce qu'on un lycée international. Donc, au niveau économique, au niveau linguistique, au niveau de l'immigration et à plusieurs autres niveaux, c'est effectivement un atout. C'est un élargissement de l'espace francophone et ça ne peut qu'être positif.
Bien, merci beaucoup. Effectivement, élargir l'espace francophone au Canada atlantique, c'était votre souhait à vous et à l'ensemble des partenaires et on voit que ça va se concrétiser. Merci encore d'avoir été à notre micro aujourd'hui.
Merci à vous et bonne journée à tout le monde.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chétiquan en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue.
L'intimidation à l'endroit des arbitres de hockey est un fléau qui perdure au nord-ouest du Nouveau-Brunswick, tant au hockey mineur que senior. Remarques désobligeantes, gestes agressifs, voire des menaces de mort. Les officiels en voient de toutes les couleurs dans les arénas du pays et du Nouveau-Brunswick, et ce, peu importe la tranche d'âge qui se présente sur la glace. L'intimidation envers les arbitres peut venir des joueurs, des entraîneurs, des supporters et des médias sociaux, bien sûr. Un problème qui mine l'atmosphère depuis très longtemps sur la glace, la culture de la violence est tellement enracinée dans le sport qu'il semble impossible de la déloger. Alors, dans ce premier de deux reportages de Maxime Gauthier, posté à Saint-Quentin, au Nouveau-Brunswick, on aborde donc la question de la violence envers les arbitres au hockey, avec entre autres le directeur des officiels de la Zone 1, Jack Lebel. Ce dernier est responsable de 84 arbitres du nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Il exerce encore sa profession d'arbitre au hockey, fort de ses 50 ans de service. Maxime Gauthier qui a aussi parlé avec des entraîneurs et des psychologues du sport.
L'intimidation est monnaie courante au hockey et les arbitres qui officient durant les matchs sont souvent pris pour cible. Le phénomène est manifeste au nord-ouest du Nouveau-Brunswick et particulièrement dans la Ligue senior. Jack Lebel est le directeur des officiels de la Zone 1 et un arbitre depuis maintenant 50 ans. Il affirme en avoir vu de toutes les couleurs au cours de sa carrière.
Pendant que j'étais en train de séparer une bagarre, il y a un joueur qui m'a ramassé par en arrière, m'a tiré le chandail assez long pour tout déchirer mon chandail. Ça, c'est une des situations qui m'est déjà arrivée. La rondelle frappe la partie horizontale de la barre en haut. Le spectateur descend en bas. Il me donne une claque par la tête. Puis tu vas avoir des gens qui ont peur pour leur voiture. Tu sais, si les voitures sont identifiées, puis tu t'en vas habiter un match de hockey, puis tu es en train de te laver, puis te préparer, puis t'en aller, puis t'arrives, puis ta voiture est brisée. Tu peux avoir des gens qui décident de t'attendre à l'extérieur. Se faire poursuivre dans nos voitures, sur le chemin de retour, on a déjà été un policier en avant, un policier en arrière pour faire un bout de route.
À chaque partie, les arbitres doivent composer avec les insultes provenant des partisans, des joueurs et même des entraîneurs.
Il n'est pas d'accord, ça fait qu'il va banger la porte. T'en as qui vont lancer la bouteille d'eau sur la patinoire. T'en as qui vont donner des insultes. Il y a plein de choses qui peuvent arriver avec un entraîneur. C'est pour ça qu'il y en a qui évitent d'aller au banc, parce que tu pourrais aller donner des explications au banc, puis ça dégénère. Puis là, parce que ça dégénère, tu es obligé de le prendre puis de sortir de la partie. Ça fait que tu évites d'y aller au max. Tu vas essayer de gérer à travers les capitaines sous la glace au lieu de te rendre au banc des joueurs.
L'ancien entraîneur-chef des Castors de Saint-Quentin a, au fil du temps, appris à changer son comportement envers les officiels. Jason Leblanc est maintenant d'avis que l'intimidation n'a pas sa place derrière le banc.
Oui, j'ai été suspendu. J'ai appris avec mes erreurs, puis maintenant, je suis un coach complètement différent. Moi, je pourrais dire que les autres ont un job, font la job la meilleure qu'ils peuvent. Oui, il y a du favoritisme, mais quand même, c'est des humains. Puis ils doivent être traités aussi bien que n'importe quel autre.
Les officiels, ils vont faire toujours leur 100%. C'est des êtres humains comme tout le monde. Avant d'avoir toi-même fait l'officiel, c'est difficile de comprendre que le jeu va rapide. Même au niveau plus jeune, le jeu peut être rapide. Deux, trois situations qui arrivent en même temps. Fait que l'officiel n'a pas toujours vu qu'est-ce qui est arrivé. Et comme parent ou entraîneur, on pense que oui. Fait qu'il faut faire attention qu'est-ce qu'on peut dire et agir à propos de cet événement-là.
Nous venons d'entendre Pierre Ouellette, président des équipes sportives interscolaires de la polyvalente Alexandre J. Savoie à Saint-Quentin. M. Ouellette évolue également en tant qu'entraîneur au hockey mineur. Il dirige des joueurs âgés de 10 à 17 ans et constate que les insultes envers les arbitres pleuvent sur la patinoire.
Que ce soit parents, ça peut être des joueurs, c'est aussi des entraîneurs. Puis je pense que c'est pas nécessairement toujours de mauvaise foi. Mais les parents, je pense, ils vont peut-être trop embarquer un peu dans la partie, ils vont venir trop intense. Mais les parents, c'est certain que s'ils démontrent ça, les enfants vont vouloir suivre un peu l'exemple de leurs parents. L'enfant va pas vraiment désassocier que ce que le parent fait est pas correct. Donc c'est certain que c'est pas nécessairement toujours des bons exemples.
Cette culture de violence inquiète. Plusieurs craignent qu'on ne la transmette de génération en génération aux jeunes athlètes. De nouveau, Jack Lebel, suivi du psychologue sportif Claude Beaulieu.
On essaie, comme avec l'association des associations de hockey mineur, on a des réunions tous les mois Je fais partie de ces réunions-là. On discute, on essaie de tout mettre les chances de notre côté. Mais c'était l'exemple, au lieu de partir d'en bas puis de monter en haut, à part d'en haut, puis de descendre en bas. Fait que c'est pas facile, là. Au hockey mineur, là, on a un bon contrôle. Je pense qu'on a un bon contrôle. Avec des bonnes personnes qui gèrent les associations, puis on essaie d'impliquer les bons coachs, les bons entraîneurs, pour ça. Puis ceux qui sont plus méchants, on essaie de les éloigner autant que possible. Fait que les associations sont de notre côté pour essayer de gérer cette partie-là, là. D'avoir des bons entraîneurs, des bons communicateurs pour avoir les enfants du bon côté.
On a vu des enfants dire « j'aime autant que mon père ne vienne pas ». Des fois, les enfants ont honte un peu. Et des fois, ils vont pas le dire parce qu'ils sont en loyauté envers leurs parents, mais à l'intérieur, des fois, ils se sentent inconfortables parce qu'eux-mêmes voient que ça fait pas de sens. T'sais. Puis on dit « oui, c'est un jeu ». Mais des fois, il y a un investissement qui est vraiment disproportionné ou une difficulté à gérer leurs propres émotions. Si la même chose se produisait dans un lieu public ou au milieu de travail, ça serait pas accepté.
Spécialiste de la psychologie sportive, Claude Beaulieu affirme que certains parents s'identifient de manière disproportionnée à leurs enfants, qu'ils vivent un peu ces parties de hockey par procuration. Et alors, les décisions prises par les arbitres sont souvent ressenties de manière trop personnelle par les parents.
C'est un peu triste de faire ce constat-là. Les partisans s'identifient beaucoup trop, disons, à leur équipe ou à leur enfant, puis à ce moment-là, là, ça devient personnel. C'est-à-dire, s'il y a une injustice d'un arbitre envers mon enfant, ben là, c'est comme si l'injustice était faite à moi-même, puis je dois le défendre, ou des choses comme ça. Puis là, ça nous apporte à faire des choses qu'on ferait peut-être pas habituellement. Des fois, le fait qu'on est en groupe, ben ce genre de comportement-là peut être supporté ou même valorisé, tout dépendamment des environnements, que ce soit peut-être plus au niveau senior. Mais ce qui est déplorable, c'est de voir justement que même des jeunes arbitres de 15 ans qui sont en mode apprentissage peuvent être victimes ou devoir gérer un manque de civisme ou vraiment des mauvaises conduites de parents. Moi, de mon côté, j'en ai vu même deux fins de semaine passées au niveau interscolaire, un arbitre qui a demandé à un petit personnel de l'aréna de sortir un parent. Je dirais qu'on a peut-être eu quand même une évolution positive dans le temps, mais il y a encore peut-être beaucoup, beaucoup de travail à faire là, à ce niveau-là.
Dans notre prochain reportage, nous irons du côté de la Ligue de hockey senior Vallée-Appalaches. On parlera entre autres avec le président de la Ligue, Alexis Ouellet, concernant la pénurie d'arbitres, mais encore du domicile des Dynamos de Kedgewick, considéré par certains comme étant un environnement hostile. Bonjour, ici Maxime Gauthier à Saint-Quentin. Vous écoutez Point de vue.
L'architecture catalane se fraye un chemin jusque dans les territoires du Nord-Ouest, là où la 29e édition du festival d'hiver Snow King honore la mémoire de l'architecte Gaudi. L'équipe du festival Snow King, qui n'a pas eu froid aux yeux en se lançant dans la construction d'un château d'hiver aux formes catalanes, malgré le niveau de difficulté, la forteresse symbolique sera terminée à temps, affirme Eugène Gagnon, un des apprentis constructeurs présents au festival Snow King. Le public sera convié donc à visiter ce grand château dès le 2 mars. De nombreux artistes vont se produire d'ailleurs au château, dont le groupe québécois Bon Enfant le 8 mars prochain, un événement présenté par l'Association franco-culturelle de Yellowknife. Voici Daniel Biru qui couvre pour nous l'actualité de Yellowknife et des territoires du Nord-Ouest.
Comme à chaque mois de mars, la ville de Yellowknife se mobilise en vue de son annuel Festival d'hiver Snow King, avec une fois de plus une programmation chargée tout au long du mois. La construction du château de neige tire à sa fin et les organisateurs comptent les jours jusqu'à la cérémonie d'ouverture prévue le 2 mars. Eugène Gagnon, alias Eugène, fait partie des apprentis constructeurs à avoir travaillé le plus sur la construction depuis novembre. Il a bien hâte d'en voir le résultat final.
Nous, on construit, là, on fait des... c'est un peu comme monter des formes pour le ciment. Ils appellent ça du snowcrete, comme le concrete. Et puis, il y a une machine qui envoie la neige, une souffleuse à neige. Et puis, on est entre les murs, on compacte la neige. Beaucoup de pelletage, beaucoup de piétinage. On promène les murs d'une place à l'autre pour pouvoir faire les différentes parties.
Inspiré du célèbre architecte catalan Gaudi, le château verra des nouveautés cette année. notamment l'ajout d'un deuxième étage dans le Grand Hall. En plus du château, plus d'une vingtaine d'artistes viendront animer le festival, dont les Yellowknives Dean Drummers, Peekaboo Kazoo et la chanteuse Ellen Froese. Le directeur du festival, Brian Weddick, alias Squishy Snow, a dit que plus de 150 artistes ont manifesté leur intérêt pour offrir une performance à l'appel des candidatures. Il dit avoir été surpris par la qualité de ces candidatures.
We're always talking with locals, our friends.
Exactly.
People who, you know, years past have performed, or organizations who have put on a show partnering with us. So, yeah, there's a lot of interest to perform up here because of the unique venue, the unique festival.
L'Association franco-culturelle de Yellowknife prévoit aussi une programmation d'artistes pour un public francophone, en plus d'une soirée d'humour francophone qui inclura la tournée Juste pour rire, animée par Micheline Marchildon. Le groupe québécois Bon Enfant sera aussi de la partie le 8 mars. Une des membres du groupe, Daphné Brissette, soutient avoir très hâte de monter sur scène devant le public franco-ténois, même si elle s'attend à ce qu'il fasse très froid. Elle dit qu'elle et son groupe sont emballés à l'idée d'interpréter des chansons à Yellowknife, où il s'agira d'une première présence pour le groupe.
Chaque place qu'on va jouer, généralement, on essaie de faire des amis. La musique, c'est faite pour ça aussi, puis ça crée des liens. Je peux pas anticiper que ça va être, mais bon, j'ai hâte de rencontrer les gens là-bas, puis les gens qui vont être là au show. Là. C'est quand même pas mal froid, là, fait que on a été prévenus, on va être bien habillés.
Pour Eugène Gagnon, le début du festival sera un soupir de soulagement pour toute l'équipe de construction. Les longues journées à travailler sur le château ont été difficiles, même s'il soutient que ça en a valu la peine, à la fois pour les artistes et pour le public.
Je dirais que c'est la fatigue cumulative. Quand on est dans les murs et puis que la souffleuse nous envoie de la neige, c'est comme la partie du travail qui est la moins agréable pour plusieurs, parce que t'es pris entre des murs et puis la neige se fait souffler.
Le château sera fermé tous les lundis durant le festival Snow King et sa dernière journée est prévue pour le 29 mars, le même jour que le festival. Ici Daniel Biru, dans le cadre de l'initiative de journalisme local.
En terminant, on ne pouvait laisser filer la Journée mondiale de la radio de l'UNESCO sans vous en glisser un mot. La Journée mondiale de la radio est célébrée chaque 13 février. La Journée mondiale, c'est l'occasion de parler du rôle essentiel que joue ce médium, non seulement pour nous ici au Canada, mais ailleurs dans le monde, de voir, de comprendre à quel point la radio est au cœur des habitudes médiatiques des populations du monde entier. L'occasion de comprendre les transformations, les mutations qu'elle subit, donc qu'elle traverse la radio. Ses origines remontent aux années 1800, imaginées grâce, entre autres, à Marconi, ici au pays. Et pour vous parler de radio, on a rencontré Carole Saint-Cyr, une franco-albertaine d'adoption qui cumule plus de 40 ans d'expérience en radio. Elle a œuvré pour différentes antennes de ICI Radio-Canada au pays, mais aussi pour Radio City, qui est une radio communautaire située à Edmonton en Alberta. Elle a travaillé donc au fil des ans en tant que journaliste culturelle, mais aussi comme animatrice. Elle nous parle des enjeux auxquels font face les radios canadiennes et d'abord des rumeurs de compression au sein du diffuseur public.
J'ai vécu mes premières compressions budgétaires à Radio-Canada en 1981. Alors, j'ai vu beaucoup d'eau couler sous les ponts avec toutes les compressions qui ont suivi. J'ai été parmi les chanceux, chanceuses qui n'ont pas été victimes de ces compressions. Mais 1981 à 2023, ça fait longtemps, là. Puis, je pense que 1981, c'était vraiment la toute première compression. Ça dépend toujours des premiers ministres qui arrivent au fédéral. Il y en a qui sont plus pro-canadiens, d'autres qui veulent rien savoir. Ça dépend beaucoup. Mais en ce qui a trait vraiment à toute l'entièreté de ce qui se passe dans les médias, c'est vraiment triste. Radio City fait partie de ces radios qui arrivent à peine à survivre. Mais il y a beaucoup de radios qui ont fermé pendant la pandémie, qui n'ouvriront plus jamais leurs portes. Alors ça, c'est vraiment un aspect très triste de la chose. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, On a gagné un peu de terrain avec Google, mais on ne gagnera pas le terrain avec Facebook. Alors, il faut que les gens comprennent que toute cette publicité qui passe via l'Internet, les radios n'arrivent pas à récupérer tout ça, là, sauf avoir une très, très grosse équipe. Mais quand on fait affaire avec une radio qui a une petite équipe... Alors, tout ça découle vraiment de 2023, si vous voulez, ou bien de l'ère du web. Les radios vont encore être là. Ce qui est assez surprenant, c'est que ça vit à travers plutôt des balados. Alors, toutes les séries de balados, toutes les radios maintenant en font, ou même des gens qui ne sont pas en radio font leur propre balado. Mais les gens écoutent de plus en plus l'oral, les histoires, l'oral des balados. Quand on suit l'évolution de tous ces auditeurs, ces auditrices qui, sur leur téléphone, demandent pour un balado, il y a vraiment une réelle augmentation. Donc, les gens aiment encore entendre les gens raconter des histoires ou faire de l'animation à une émission, quoi que ce soit. Donc, ça, ça va pas se perdre. Mais ce qui se perd, c'est de la façon qu'on va le faire. Pour moi, c'est impensable de voir un gouvernement qui va se débarrasser de son diffuseur public. Parce que ça, c'est vraiment très dangereux. Très dangereux. Je crois qu'il y a beaucoup de pays africains qui savent de quoi je parle. Parce que ça s'est vu beaucoup lors de coups d'État et de choses comme ça. Les radios sont les premières à être immobilisées par les gens qui veulent prendre le pouvoir parce qu'on parle à la population. En Amérique latine, enfin, tous les pays qui ont vécu des coups d'État ont vécu cet effet-là. Donc, il faut faire attention de ne pas perdre notre radio publique, mais de plus en plus, j'entends parler et c'est là où c'est intéressant parce que ton rôle, Élie, comme journaliste à Radio Cité, vient d'un projet justement de patrimoine qui parle beaucoup de l'information locale. Radio-Canada ne réussit pas toujours à bien informer ses gens de façon locale. Mais c'est toujours des petites équipes qui bougent beaucoup, où les gens ne restent pas longtemps, alors c'est toujours à recommencer. Ça, ça peut aider à condition que le prochain gouvernement pense encore la même chose. Que l'information locale est déjà la base de l'information, et après provinciale, et après nationale, et après internationale. Mais même si on est ici à Edmonton, on veut quand même savoir ce qui se passe en Afrique, en Asie ou en Europe, là. Alors, Radio-Canada, la grande boîte, si vous voulez, là, avec tous ses correspondants à l'international, c'est également essentiel. Radio-Cité, à la base, est née, entre autres, justement, pour informer toutes ces communautés entre elles, pour qu'elles ne vivent pas en ghetto, pour qu'elles sachent qu'est-ce que la communauté d'un autre pays, là, ou même acadienne, québécoise, ou quoi que ce soit, quelles sont ses valeurs, etc., mais aussi qu'on crée du dialogue entre les communautés. C'est ça qui est important. Il me semble que c'est la meilleure façon de faire en sorte que les gens se parlent, même en ne se connaissant pas, mais la radio fait en sorte que ça va inciter des conversations, je crois.
Élie Koulou, journaliste pour EJL.
Voilà qui complète cette autre édition de Point de vue. Nos journalistes Maxime Gauthier, Julia Chénu, Daniel Biru, Marie Hillès et Élie Koulou. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Boris Chassagne ici à l'animation et à la réalisation. Merci de nous être fidèles. Des questions, suggestions, commentaires, écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca, radio@fréquenceinfo.ca. Restez à l'écoute de l'émission qui suit et à la semaine prochaine. Ciao!
À l'antenne de Point de vue. Suivez-nous sur X. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.